suis animateur en fait de ce qu'on appelle le réseau zone humide en Limousin. C'est en fait un réseau de gestionnaires de zones humides qui regroupe en fait des exploitants agricoles, des exploitants forestiers, des particuliers ou des collectivités qui nous sollicitent pour du conseil sur la gestion des zones humides. Donc il y a une convention qui est signée entre eux et nous pour des parcelles. Nous, on vient réaliser un diagnostic écologique et hydrologique. On regarde un petit peu ce qu'il y a en termes de faune, de flore. Et derrière, on propose des opérations de gestion qu'ils peuvent mettre en œuvre ou non. Voilà, c'est juste pour du conseil. Et derrière ça, pour les exploitants agricoles, on peut avoir des mesures particulières liées notamment à la PAC. On peut les aider à monter en fait des dossiers de subvention pour réaliser certains types de travaux. Et ensuite, si c'est des collectivités ou d'autres types de structures, on travaille par exemple avec la Fédération de chasse en ce moment à Champagnac-la-Noaille, on peut monter des dossiers au cas par cas de subvention. Le réseau Zone Humide qu'on anime, nous, existe depuis 2005-2006. En Limousin, on a dépassé les 170 sites sur lesquels en fait on fait de la maîtrise foncière, donc soit on achète, on devient propriétaire, soit on fait de la maîtrise d'usage en signant des conventions ou des baux pour avoir la main mise sur la gestion. Donc en gros, voilà, on a dépassé cette année les 1000 hectares en propriété. Donc on fait partie quand même des gros propriétaires fonciers du Limousin.
Une zone humide, est-ce que ça se définirait par une zone dans laquelle nos chaussures s'enfoncent avant d'être complètement trempées? Quelle est la définition exacte? Comment on peut reconnaître une zone humide?
Ah oui, effectivement, il y a une définition réglementaire législative de la zone humide. Après, pour faire très simple, il faut voir ça comme une zone d'interface entre ce qu'on appelle les zones vraiment sèches. Donc là, bon, on s'en rend vite compte. Et puis, les zones purement aquatiques. Donc en fait, tous les intermédiaires, enfin en tout cas beaucoup, pourraient être considérés comme de la zone humide. Donc ensuite, d'un point de vue réglementaire, et nous ce qu'on ferait de façon courante, c'est on voit ça au niveau de la flore ou au niveau de la pédologie aussi. Il y a une classification de sol qui nous permet de reconnaître si on est en zone humide ou non, avec notamment des traces de ce qu'on appelle des traces d'oxydoréduction liées à la présence de fer dans le sol.
La pédologie, c'est la science des sols.
Oui, c'est ça, pardon, c'est la science des sols, oui, effectivement.
Pourquoi exactement établir une gestion des zones humides?
Eh bien, parce qu'en fait, en Limousin, depuis un certain nombre d'années, là, il y a beaucoup de zones qui ont été abandonnées. On a aussi, au niveau de l'agriculture, fait pas mal de, si je puis dire, de mauvaises choses concernant les zones humides. On a 50 à 60% des zones humides au niveau national qui ont disparu en un siècle. Et donc derrière, eh bien aujourd'hui, on cherche à mieux les entretenir en sachant qu'elles nous rendent beaucoup de services, notamment en période de crue ou en période d'assec. C'est-à-dire qu'elles jouent le rôle de zones tampons. Quand il pleut énormément, elles absorbent, ce qui évite d'avoir de trop grosses quantités d'eau qui arrivent dans les zones avales. Et en période estivale, elles relarguent de l'eau dans le milieu naturel pour alimenter, ce qui évite que nos ruisseaux n'aient plus d'eau. C'est des milieux qui rendent tout un tas de services. En plus de ça, il y a aussi une richesse en termes de biodiversité. Et nous, on cherche à les entretenir. L'objectif, c'est d'avoir une diversité de milieux intéressante.
Si je me souviens bien, la semaine dernière, il y avait une visite où il était question d'une gestion de terrain par le biais d'une race de bovins.
C'était des Highland Cattle.
Oui.
Oui, effectivement, il y a ce genre de sorties-là aussi organisées. Je sais qu'au niveau du plateau, il y a quelques éleveurs qui ont des Highland Cattle, ou ça peut être également des Galloway, qui viennent, elles, du Pays de Galles, qui sont des vaches tout autant rustiques. Nous, on aime bien travailler parce que bon, ces vaches travaillent très bien sur les milieux tourbeux qui sont quand même assez courants sur le plateau. La vache limousine de chez nous, elle travaille très bien aussi, mais elle travaille un petit peu moins bien que ces vaches encore plus rustiques.
De quel travail vous parlez ?
De la gestion de pâturage, le pâturage tout simplement. En termes d'action et puis d'impact sur le milieu, on sait que bon, sur les zones humides, c'est parfois plus compliqué à gérer. Les animaux, ils vont pas forcément dans tous les secteurs parce qu'ils s'enfoncent. Ensuite, il y a des problèmes avec le piétinement. Quand on laisse trop longtemps les vaches, on peut avoir du surpiétinement sur certaines zones. Et ce qui fait qu'on développe une flore qui n'est pas forcément très adaptée et qui est moins appétante pour les animaux. Mais derrière ça, si on utilise des vaches plus rustiques qui passent un peu partout et qui ont un régime alimentaire, disons, plus large, c'est tout de suite plus intéressant. c'est quelque chose qui risque de se développer de plus en plus. Je pense que, si je me souviens bien, le parc cherche à développer l'élevage de ces petites vaches rustiques sur le plateau.
Les zones humides sur le plateau, elles existent depuis combien de temps?
On va dire que ça fait quelques milliers d'années, parce que les zones tourbeuses, en fait, c'est des reliques de la période glaciaire. Les tourbières qu'on voit actuellement, la tourbe, c'est très long à se mettre en place, et sur le Limousin, on peut trouver des tourbières avec 2 ou 3 mètres, voire un petit peu plus de tourbe, ce qui est déjà assez important.
Comment on peut reconnaître la tourbe précisément, la différencier de la terre ou...
Disons que c'est la tourbe, c'est en fait de la matière organique qui n'a pas été dégradée, elle est juste, on va dire, coupée en morceaux. Mais elle n'est pas minéralisée, puisqu'en fait l'activité biologique est extrêmement réduite pour en gros 3 raisons. Déjà par la présence de l'eau, qui réduit complètement l'activité microbienne et bactérienne, la présence d'un milieu acide, et donc voilà, enfin ces deux choses font qu'il y a beaucoup moins d'oxygène, et donc les bactéries ne peuvent pas réaliser la minéralisation, et ce qui fait que on stocke en fait de la matière organique. C'est en gros c'est des puits de carbone, les tourbières. Donc c'est pour ça aussi que nous derrière on parle aussi de gestion de ces milieux-là, c'est-à-dire qu'on évite de drainer ou de faire d'autres choses, enfin de mettre hors d'eau ces zones humides, notamment les tourbières, parce qu'ensuite ça deviendrait des sources de carbone, puisque en faisant baisser le niveau d'eau, on met de la matière organique à l'air libre, et donc là, elle se fait dégrader, minéraliser, et il y a un relargage de carbone, et puis même de nutriments dans le sol, et puis on relance une dynamique qui n'est pas forcément celle qu'on souhaite.
Est-ce que les zones humides sont en concurrence avec les zones de reboisement ou
Pas forcément, parce que les zones humides, souvent, elles sont trop humides pour pouvoir y planter et pour que des arbres y survivent. Et c'est pour ça qu'il y a des zones humides, notamment, qui ont été drainées pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est très réglementé et très suivi. Et donc, maintenant, c'est beaucoup moins important. Et donc, non, aujourd'hui, il y a moins de rencontres entre les deux systèmes.
C'est assez étrange de voir à quel point une zone humide a une frontière d'un coup. Enfin, ce sont des zones qu'on reconnaît quand même à l'œil nu, assez rapidement.
Surtout que le plateau de mille vaches a quand même été énormément planté et de résineux, donc ce qui fait que ça montre une véritable coupure entre les deux, oui, effectivement. Il n'y a pas toute la dynamique entre la zone humide, et puis ensuite on trouve des forêts autres, des forêts de saules, et puis ensuite de la hêtraie notamment. Des fois, ça peut être une coupure plus nette, effectivement.
Une dernière question, est-ce qu'il faut venir aux visites avec des bottes?
Oui, bien sûr. C'est sûr que là, pour visiter les zones humides, surtout à cette période-là, comme ça dépend de la journée mondiale liée à la convention de Ramsar, ça tombe au mois de février chez nous. En février, c'est sûr que c'est bien humide. Donc là, les zones humides, effectivement, il n'y a pas de souci, elles sont bien humides. Et voilà, pour les visites, il y en a deux visites. Oui, il faut venir qu'avec ses bottes. Et après, pour vendredi, c'est un chantier participatif. Donc là, on peut emmener un petit peu plus de matériel. Pour aider, fait, puisque on va mettre la main à la pâte. Toutes les infos sont sur le site internet du Conservatoire d'Espaces Naturels du Limousin. C'est www.conservatoirelimousin.com.